Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour le 141e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Après une petite pause la semaine passée dans notre cycle consacré à Mozart, justement pour parler des quelques concerts diffusés sur les réseaux sociaux dernièrement, retour aujourd'hui à l'œuvre de celui qu'on appelait le divin Wolfgang. Nous allons reprendre notre exploration commencée il y a 3 semaines. Je rappelle que les 2 premiers volets de cette série avaient été dédiés à l'enfance et aux œuvres de prime jeunesse, puis au concerto pour piano. Il reste encore beaucoup de formes auxquelles consacrer des émissions, tellement Mozart a excellé dans toutes, ce qui lui confère, au-delà de son incontestable génie, une place à part parmi les grands compositeurs. L'opéra est un des genres où il a laissé de nombreux chefs-d'œuvre et c'est à celui-ci que nous allons dédier le présent numéro en compagnie de notre spécialiste de l'art lyrique à Mélomanie. J'ai nommé Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Robert me fait l'amitié d'apporter sa passion et son savoir dans cette émission. Ils vont être fort précieux. Nous voici partis tous les deux pour un retour arrière dans le petit monde des opéras de Mozart.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous également Robert, ravi de vous retrouver à Mélomanie. Alors, je disais à l'instant que Mozart avait aussi excellé dans l'opéra, qu'il y avait composé quelques chefs-d'œuvre du genre, nous allons en parler dans quelques instants bien sûr. Et la question qu'on peut se poser et que je vous pose, a-t-il là aussi, comme dans d'autres domaines, révolutionné l'art lyrique et de manière plus personnelle? Je serais curieux de savoir où vous placez dans votre petit panthéon les œuvres de Wolfgang.
Je dois dire que personnellement, je suis arrivé un peu tard à Mozart, je devais avoir 25 ans à peu près, mais le début de ma passion musicale a été plutôt tourné vers l'opéra italien et Wagner, ensuite l'opéra français. Et Mozart, je suis arrivé un peu plus tard, mais évidemment, dès qu'on met le pied dedans, on est enveloppé par un génie absolument fabuleux. Alors, pour répondre plus spécialement à votre question, et on va avoir justement, c'est très intéressant, on va avoir justement l'occasion de développer l'importance qu'il a eue à une période charnière en créant quelque part le grand opéra allemand que souhaitait l'empereur du Saint-Empire d'ailleurs à ce moment-là, Joseph II. Et il a été le chaînon qui a amené à Beethoven, à Weber et vraisemblablement à Wagner. Donc c'est un rôle capital en dehors parce que Mozart n'a pas été copié. Ça, c'était impossible. Il est un génie, point. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien avant, parce qu'il y a eu quand même Haydn qui a été très important. Mais après, il n'y a pas eu de second Mozart. Ça n'a pas existé. Mais par contre, beaucoup l'ont écouté et s'en sont inspirés. En ce qui concerne l'opéra allemand en particulier.
Bien, alors je rappelle que lors du premier volet de cette série consacrée à la jeunesse et aux œuvres de jeunesse de Mozart, nous nous étions arrêtés à ses premiers opéras, d'Apollo et Hyacinthe à Mithridate, en passant par Bastien et Bastienne et La Fausse Ingénue. Mithridate est composé en 1770, L'enlèvement au Serail, qui est peut-être son premier chef-d'œuvre dans le domaine de l'art lyrique, vous allez nous le dire, arrive en 1782. Est-ce que durant les 12 ans qui séparent ces deux œuvres, Mithridate et L'enlèvement au sérail, il y a eu quelques opéras qui méritent qu'on en parle un peu, Robert.
Alors, bien sûr, mais ce que je tiens à dire, d'abord, c'est que Mozart a composé 22 opéras. Alors, il y en a un que vous n'avez pas cité, qui s'appelle Le devoir du premier commandement.
Oui, est-ce que c'est vraiment un opéra?
Alors, c'est une œuvre qui est classée en tant que pièce lyrique.
Plutôt, oui.
C'est une pièce lyrique. Mozart l'a composée, il avait 11 ans, c'était en 1767. Et si on part de ce devoir du premier commandement, qui est un opéra dit sacré, et si on arrive à la flûte enchantée, à la Clémence de Titus, chronologiquement, on va prendre la date de création des opéras. Et la date de création des opéras, le dernier, c'est bien la flûte enchantée. Donc, de ce devoir du premier commandement à la Clémence de Titus, il a écrit 22 opéras en 24 ans, soit quasiment un par an. Ça paraît énorme, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que, par exemple, Donizetti en a écrit 71 opéras en 30 ans. Certes, les trois quarts de ses opéras sont tombés dans l'oubli, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui ont cette capacité à écrire, parce qu'ils ont des commandes, parce qu'ils ont cette envie, parce qu'ils ont ce talent également. Après, toute la question se pose en termes de qualité, quantité. On sait bien que ces deux termes ont un peu de mal à se conjuguer à la perfection. La semaine passée, donc, vous êtes arrêté à Mithridate et Roi du Pont, qui était créé en 1770, donc il nous en reste 17 à passer en revue. C'est clair et net, la chose est infaisable. On est bien d'accord, Eric, on s'est bien entendu là-dessus.
On va se concentrer sur les grands opéras de Mozart, bien sûr.
Même, il faut le dire en toute humilité, on va parler de 5 opéras aujourd'hui. Chacun mériterait plus d'une journée d'études. Donc, pardon à nos amis auditeurs, mais
on va passer un peu vite.
On va essayer dire ce qui nous paraît l'essentiel, tout en sachant que nous ne pouvons pas être exhaustifs là-dessus et faire un vrai travail de musicologie. Mais nous allons parler de ces opéras. Pourquoi ? Parce qu'ils constituent des piliers de l'histoire de la lyrique.
Du répertoire lyrique.
Et en l'occurrence, vous avez raison, du répertoire d'aujourd'hui. Donc, après Mithridate, dont nous allons passer simplement, rapidement, en les citant, Mozart écrit d'autres opéras, Ascanio in Alba, Le Songe de Scipion, Lucio Silla, qui quand même est de temps en temps repris, mais vraiment, quand je dis de temps en temps, c'est à peu près tous les 20 ans, La Finta Giardiniera, qui est reprise un peu, Le Roi Pasteur, c'est beaucoup plus confidentiel, Tamos, bon, on va le considérer comme un opéra tout en sachant que c'est plutôt une musique maçonnique. Zaïd, qui quelque part nous annonce déjà la...
Mais qui est inachevé, Zaïd. Hein,
oui, oui, mais elle annonce d'autres opéras. Idoménée, qui est peut-être pour moi le premier grand...
Oui, qui lui est donné, par contre, de temps en temps.
Voilà. Mais bon, comme il fallait faire des choix, eh bien nous passons directement... À l'enlèvement au sérail.
Alors, après Idoménée en 1781, pour être précis, c'est donc l'enlèvement au sérail créé en juillet 1782 à Vienne, sous la direction de Mozart lui-même. Le livret est d'un certain Johann Gottlieb Stephani et il raconte comment Belmonte, un noble, tente d'enlever sa fiancée Constance, prisonnière du pacha turc Selim. On va écouter un premier extrait dans cette émission avec le chœur des janissaires de l'acte 1 de l'enlèvement au sérail. Des janissaires, un des morceaux célèbres de l'enlèvement au sérail, qui est en fait un Singspiel commandé par l'empereur Joseph II à Mozart, dont il fut l'opéra le plus joué à Vienne. Il est encore très souvent donné de nos jours un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui explique le succès et la popularité de cette œuvre presque 2 siècles et demi après sa création, Robert ?
Alors, d'abord, rappelez ce que c'est un Singspiel, mais c'est un opéra comique, comme Carmen, quoi, en définitive. Hein. C'est-à-dire que c'est l'opéra comique tel qu'il est défini en France à cette époque-là, avec non pas des récitatifs, mais avec tout simplement des dialogues parlés en allemand. Et c'est chanté en allemand également. Alors, le livret, très clairement, est dans l'air du temps. Hein. C'est celui de Turquerie. D'ailleurs, vous avez pu entendre dans l'orchestration du chœur qui vient d'être passé qu'il y a des instruments de percussion qui sont très clairement d'origine orientale. Orientale, pour le moins. Voilà. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est une turquerie, mais il faut pas... C'est très à la mode à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier que... Pas très longtemps avant, hein, cet empire austro-hongrois a failli être démantelé par l'Empire ottoman qui a fait le siège de Vienne. Et ça, ça ne s'est pas très bien passé. Bon, les Occidentaux, on va dire, ont gagné, mais enfin, ils s'en souviennent encore. Alors bon, évidemment...
Même de nos jours, d'ailleurs.
Oui. Alors, à l'époque de Mozart, bon, le danger était passé, bien sûr. Hein, mais enfin, ils préfèrent en rire qu'en pleurer. Mais enfin, ils ont quand même le souvenir de tout ça. Mais quand je dis ils préfèrent en rire, ils préfèrent vraiment en rire. Mais ils n'ont pas été les seuls à l'histoire. Molière, Rossini...
Oui, dans, le Turc en Italie.
Le Turc en Italie, l'Italienne en Alger, etc. Bon, tous ceux qui a trait au Moyen-Orient, à cette époque-là, on préfère en faire un sujet de plaisanterie. Alors, vous l'avez dit, c'est l'histoire d'une jeune Européenne enlevée par des pirates, prisonnière d'un pacha, délivrée par son amoureux. Et ça n'a rien d'original, sauf que Mozart, peu de temps avant de commencer la composition de cet opéra, rentre de Londres. Et à Londres, qu'est-ce qu'il a fait? Entre autres choses, il a rencontré les francs-maçons. Leur philosophie l'a beaucoup interpellé, en particulier cette histoire de fraternité, d'égalité, de pardon, de philosophie devant la mort, du rôle de la femme.
La femme aussi, oui.
Voilà, parce qu'il est clair et net que pour Mozart, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Ça, c'est clair et net. On n'a qu'à écouter d'ailleurs l'enlèvement au sérail. Alors surtout, l'enlèvement au sérail, il ne faut pas prendre ça comme parfois, malheureusement, ça a été monté dans des temps anciens. Mais que j'ai connu, donc pas si ancien que ça quand même, hein. Un peu comme une opérette légère, court-vêtue, etc. Non, 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 c'est tout sauf ça. Cet enlèvement au sérail réclame une beaucoup plus grande acuité d'écoute et de profondeur. Dans le sous-texte de cet opéra, qui va devenir le premier, en définitive, grand opéra allemand, tel que le souhaite, comme je le disais, l'empereur Joseph II, eh bien, ma foi, il y a dedans la flûte enchantée. On ne l'entend pas, mais on la devine. Dans le sous-texte, c'est ça intégralement. C'est aussi l'opéra pour Mozart de la libération. Alors, entendons-nous, il n'était pas prisonnier, hein, sauf qu'il était prisonnier de son employeur, le prince-archevêque Colloredo.
Comme beaucoup de musiciens et compositeurs à l'époque, qui étaient salariés, si on peut
dire. Qui étaient salariés, oui.
Protégés, en tout cas.
Et qui étaient protégés. Sauf qu'avec cet ecclésiastique et Mozart, ça ne marchait pas. Mozart était un personnage qui aimait trop la liberté. Ça ne pouvait pas marcher. Il y avait aussi Léopold, son père, qui le privait de bien, bien, bien des choses. Donc, finalement, il y a eu un clash avec Colloredo. Un clash, d'ailleurs, qui s'est terminé, c'est un des plus proches collaborateurs de Colloredo, qu'il a jeté en dehors de la cour, mais avait un grand coup de pied au derrière physique. En fait, c'est un coup de pied au derrière libérateur, parce qu'à partir de là, eh bien, Mozart a pu voyager, a pu rencontrer qui voulait et a pu écrire ce qu'il voulait. Alors, comme vous l'avez dit, l'enlèvement a connu un énorme succès et joué partout, et restera du vivant de Mozart déjà, mais il n'a pas vécu très longtemps.
Non, après, mais du vivant de Mozart, 10 ans, oui, oui.
Mais du vivant de Mozart, c'est quand même à noter, ça a été l'opéra le plus joué. Alors, pour la partie people, si vous voulez bien, signalons que Mozart épouse 3 semaines après la première de cet enlèvement une certaine Constance Weber, de la famille du compositeur lui-même. Alors, en fait, pardon, mais ce n'était pas le premier choix de Wolfgang Amadeus. Le premier choix, c'était la sœur de Constance, qui était Aloysia, mais malheureusement, celle-ci n'a jamais répondu ses avances. Bon, ben voilà, il a épousé sa sœur, je ne dirais pas autre chose. Alors, dans cet opéra, donc, comme je vous le disais, qu'il faut surtout écouter, il faut bien l'écouter, et il y a beaucoup, beaucoup de sous-textes dans cet opéra qui n'ont rien à voir, comme je vous le disais, avec une œuvre légère, surtout pas. Et, au point de vue vocal, il y a un rôle absolument infernal à chanter, c'est celui qui est comme par hasard de Constance. Si à mon avis le personnage principal féminin porte le nom de sa future épouse,
mais c'est pas par hasard, bien sûr.
C'est un hasard. Était créé par Caterina Cavalieri, qui, comme son nom ne l'indique pas, était une viennoise pur jus. Mais malheureusement pour ses successeurs, son ambitus faisait près de 3 octaves.
Ce n'est pas donné à tout le monde.
Ce n'est pas donné à tout le monde, non. Et donc Mozart en profite pour lui écrire un air, entre autres.
Taillé sur mesure.
Quoi, le Martin à la Harten, et qui réclame bien plus de 2 octaves, et donc avec les problèmes que cela pose aux cantatrices actuelles aujourd'hui. Mais à part ça, il y a un autre rôle féminin, comme par hasard, qui est encore plus difficile à chanter, c'est celui de Blanchen, c'est-à-dire la camériste, on va dire, de Constance, qui elle a un ambitus, on lui réclame un ambitus encore plus élevé, puisque autant Constance plafonne, entre guillemets, pardon, au contraire, et descend en dessous de la portée, autant Blanchen va jusqu'au contre-mi et descend encore plus bas dans la portée. Voilà. Donc on parle
plus grave au plus aigu.
Voilà, alors la difficulté très clairement de Constance, ce sont les sauts d'octave. Voilà.
Oui, ça c'est terrible.
Alors ça c'est infernal. C'est infernal pourquoi ? Parce que tout simplement, ça demande une technique vocale très très précise. Et si vous ne la maîtrisez pas, à un moment...
Vous êtes à côté, oui.
Ça se coince.
Alors, on va écouter un second extrait de L'enlèvement au sérail. Et bon, vous l'avez cité, un des airs célèbres de ce Singspiel mozartien, Martin Allerharten, interprété par la grande Edda Moser. Martin Allerharten, air extrait de L'enlèvement au sérail interprété par la soprano allemande Edda Moser, une des grandes interprètes mozartiennes du siècle dernier. Donc, après L'enlèvement, nous allons aborder la trilogie d'Aponte, ce qu'on appelle comme ça en tout cas. Avec son premier volet, en l'occurrence Les Noces de Figaro, créé en 1786 à Vienne. Entre 1782 et 1786, Mozart n'aura pas composé grand-chose dans le domaine lyrique, puisque le seul qui s'intercale à ma connaissance entre L'enlèvement au sérail et Les Noces, c'est le directeur de théâtre, mais lui aussi est créé en 1786. Est-ce qu'il y a eu d'autres petites choses quand même ?
Oui, alors, si on tient compte de la numérotation Köchel, qui est la numérotation des opus faits par le baron Köchel, il y en a trois autres. Il y a Loi du Caire, il y a Lo Sposo dell'Uso et effectivement le directeur de théâtre. Mais bon, ce sont des opéras qui ne sont jamais donnés, ce sont des opéras très courts, ce sont des fêtes musicales.
On va appeler ça des pièces mineures.
Oui, enfin, chez Mozart, il n'y a rien de mineur.
Mineur pour Mozart.
Mineur pour Mozart, voilà.
Mineur dans l'œuvre de Mozart.
Voilà.
Alors donc, c'est la première collaboration entre Mozart et le fameux Lorenzo da Ponte. Comment ils se rencontrent, ces deux-là ? En fait, ils se rencontrent à la cour de Joseph II.
Voilà, puisque donc Lorenzo da Ponte est le poète officiel de Joseph II.
Pour la suite de Métastase, celui Metastasio.
Metastasio, effectivement. Alors, nous sommes en 1786. Mozart vient de faire, c'est vrai, une pause lyrique, puisque dans les trois opéras qu'on vient de citer, on les a qualifiés de mineurs. Mais bon, voilà. Et il attend une commande, il a envie de composer un opéra bouffa. c'est quelque chose qui le hante. Donc, il a déjà rencontré, on vient de le dire, Lorenzo da Ponte à la cour. Mais pour l'instant, rien ne vient. Alors que dans le domaine instrumental, il compose de manière littéralement, je ne sais pas si on peut dire frénétique, mais bon, c'est son talent qui l'amène à composer comme ça. Et en fait, le sujet quand même, le sujet des Noces Figaro est un brin révolutionnaire, hein, bien sûr. Et l'empereur Joseph II, rappelons qu'il était quand même le frère de Marie-Antoinette, et bon, ben, un sujet révolutionnaire qui lui est proposé vraisemblablement avec l'appui de Lorenzo da Ponte, qui avait quand même ses entrées à la cour. Il accepte le projet, alors d'autant plus qu'à ce moment-là, à Vienne, se joue avec beaucoup, beaucoup de succès la première partie dramatique de l'œuvre, c'est le Barbier de Séville. Alors évidemment, ce n'est pas celui de Rossini, c'est celui de Paisiello. Mais alors vous savez que le mariage de Figaro, c'est la suite un peu nostalgique, on va dire un peu malheureuse, des amours du comte Almaviva et de Rosine du Barbier de Séville. Hein. Et donc, ma foi, l'empereur Joseph II, qui était un despote éclairé, il a dit, mais voilà, pourquoi pas, tant pis, bon, allez, on va jouer cette œuvre de Beaumarchais, tant pis pour le sujet. Alors, il est vrai également que Lorenzo da Ponte a un peu édulcoré les paroles pour le rendre un peu moins révolutionnaire. Bon, cela dit, da Ponte a rendu les paroles un peu moins révolutionnaires, mais Mozart, non. Certainement pas. Quand on écoute la musique, on s'aperçoit de quoi ? Dans cette folle journée, il y a une unité de temps et de lieu extraordinaire, hein, et de rythme. On s'aperçoit de quoi ? En fait, des exemples de la rouerie, si l'on peut dire, de Mozart, pour mettre en avant le vrai sujet révolutionnaire. C'est que les deux stars de la troupe de l'opéra ont joué les rôles des valets.
Oui,
ça, c'est important.
Tout est inversé.
Ce n'est pas tout. Figaro a trois airs. Le valet Figaro a trois airs. Le comte en a un. Figaro, il emploie le thème du menuet, cher à la cour, pour se moquer du comte en cachette. « C'est vos bailare, signor Contino !» Il va lui apprendre un peu comment on fait. Et comme ça, on pourra en citer des exemples à l'appel. Encore une fois, mais ça c'est tout le génie de Mozart. Mozart, dans cette œuvre, il faut regarder comment il arrive à transformer au courant de l'œuvre un duo, un trio, un quatuor, un sextuor. Mais il faut être un génie pour faire ça. Un génie. Donc, je pense qu'effectivement, nous sommes là, quand on parle de la trilogie da Ponte, dans les grands chefs-d'œuvre mozartiens. Voilà, ça, j'en suis absolument persuadé. Autre chose à dire, c'est que, et vous avez raison, on parle beaucoup de Lorenzo da Ponte, et c'est un binôme miraculeux.
C'est un personnage extraordinaire, da Ponte, je le dis au passage, hein, c'est un véritable personnage de roman. Alors, il était ami de Casanova, et il a eu une vie d'aventurier, et il meurt à New York en 1838. Je ne sais pas si on se rend bien compte, c'est 47 ans après la mort de Mozart. En 1838, à l'âge de 89 ans. Et il a eu une vie, je conseille d'ailleurs, vous savez qu'il existe les mémoires de Casanova, mais lisez les mémoires de da Ponte, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, parenthèse refermée.
Ouais, non, mais il fallait le souligner, et que vous avez parfaitement raison. Là, on a affaire à deux génies.
Oui, oui, dans leur
deux
domaine.
Oui. Et alors, dans le domaine lyrique, il y aura des rencontres improbables comme celle-ci. Il y en aura très peu. Si vous voulez bien, je vais en citer deux autres. Une aussi flagrante, c'est Richard Strauss et Hugo von Hofmannsthal. Tous les deux ont fait les plus beaux opéras du début du XXe siècle. Et il y en a une autre, c'est Verdi avec Shakespeare. Alors, ils ne sont jamais connus. Évidemment qu'ils ne se sont jamais connus. Sauf que Arrigo Boito a écrit des livrets sur Otello, sur Falstaff, que Verdi a mis en musique, et qui sont, comme par hasard, des grands chefs-d'œuvre. Ça aussi, ce genre de, dans l'histoire de la musique, ce genre de rencontres, je veux dire par là que c'est des rencontres qui sont miraculeuses, et elles sont tellement miraculeuses qu'elles marquent l'histoire.
Il y a un air très célèbre dans les Noces de Figaro que tout le monde connaît, chanté par le personnage de Chérubin au début de l'acte 2. On ne va pas se priver de l'écouter, d'autant plus que j'ai sous la main une version interprétée par Éléonore Pancrazi, la jeune soprano française, qui doit tenir le rôle début avril au Théâtre du Capitole. Encore faut-il que, évidemment, les représentations aient lieu. On l'écoute chanter « Voi che sapete ».
Voi che sapete che cosa
Voi que sapete que cosa è amor, air chanté par Chérubin au début de l'acte 2 des Noces de Figaro, interprété ici par Eleonore Pancrazi qui doit reprendre le rôle au théâtre du Capitole. En avril, d'ailleurs, vous avez des nouvelles là-dessus, Robert? A priori, il y a peu de chances que ça ait lieu.
Non, alors je n'ai pas de nouvelles non particulières là-dessus. On savait que depuis plusieurs mois, Christophe Christie est amené à tout annuler. Bon, mais là, non, pour ces noces, normalement... Si elles doivent se faire, dès la semaine prochaine, les répétitions commencent.
Hein. Oui, de toute façon, voilà. Au mieux, ce sera sans public, quoi qu'il arrive, et donc éventuellement oui.
Alors c'est dommage, parce qu'il y avait beaucoup de chanteurs français.
Oui.
Il y avait la prise de rôle de Karine Dey pour la comtesse. De toute façon, moi, je suis bien sûr que Karine Dey viendra prendre le rôle à Toulouse.
Oui, si ce n'est pas cette année.
Oui, ça sera pour... 22, 23, 24, oui, voilà, oui. Oui, parce qu'en fait, Christophe Christie a annulé des choses, mais en a reporté beaucoup. Donc, il a reporté des choses de l'année 19-20 et des choses de 20-21. Donc, en fait, les saisons de 23-24, elles se sont faites un peu toutes seules ou quasiment, hélas.
Pour revenir aux Noces de Figaro, parmi les opéras de Mozart, est-ce que vous le situez vraiment tout en haut? C'est vraiment un de ses chefs-d'œuvre.
Sur les trois de Mozart, la trilogie, vous voulez dire?
Non, sur les grands opéras de Mozart, l'enlèvement, la flûte et la trilogie.
C'est très dur, moi je peux pas répondre
à ça.
Ça,
c'est votre goût personnel,
mon goût personnel, il vient après.
Il vient après, c'est pas celui que vous mettez tout en haut.
Si vous voulez, c'est comme quand on écoute Tristan et qu'on compare à Flagstaff à Nilsson, bon, et après on se jette dans la Garonne, parce que c'est impossible à déterminer.
Allez, un second extrait maintenant des Noces de Figaro. On va écouter un chœur. Hein, et le chœur, c'est un petit chœur des Noces de Figaro. C'est Giovanni Liete Fiori Spargete. C'est à l'acte 1. Et c'est une version dirigée par Carl Baum. Giovanni Liete Fiori Spargete de l'acte 1 des Noces de Figaro. Voilà donc pour le premier volet de ce qu'on appelle la trilogie d'Aponte, née de la collaboration entre le librettiste italien et Mozart. Et nous enchaînons tout naturellement avec le deuxième volet, c'est-à-dire Don Giovanni, créé l'année suivante, en 1787, à Vienne et à Prague. Deux actes pour ce drama giocoso, cette comédie dramatique donc, un opéra qui influencera beaucoup les compositeurs romantiques et que Richard Wagner admirait tellement qu'il l'a appelé l'opéra des opéras. Alors Robert, on en revient un peu à la même question, ça serait vraiment le super chef-d'œuvre lyrique de Mozart? Et pourquoi, peut-être plus encore, a-t-il influencé à ce point les compositeurs romantiques du 19e siècle?
Alors d'abord, je ne peux pas vous parler à la place de Wagner, ça me paraît quand même très difficile, hein, mais je pense que le sujet lui-même a été extrêmement porteur.
Oui.
Alors, je rappelle simplement que le sujet, et c'est l'histoire n'est pas neuve, encore une fois, hein, elle date de 1630, c'est Tirso de Molina, qui était El Burlado de Sevilla. Et il n'est rien de dire que le 18e siècle, je dis bien le 18e siècle, va connaître ce qu'on pourrait appeler une véritable épidémie de Don Juan. Tous les compositeurs, tous les peintres, tous les écrivains, vont se l'approprier. Bon, il faut dire que c'est un personnage qui est très très fort, et malgré tout, Don Juan. Alors, moi je pense que c'est surtout dû à ça pour moi, des trois, puisque vous voulez à tout prix me faire tuer quand je vais sortir de l'émission, mais pour moi c'est le troisième. Bon, donc vous avez donc compris que pour moi le premier, c'est celui qui va suivre.
On en reparlera après.
On en reparlera. Alors, Ce que vous avez dit, c'est pas tout à fait juste. En fait, ça n'a pas été créé à Vienne, à Prague. Ça a été créé, je pense, d'abord à Prague.
Oui, alors, c'est quasi en même temps, quoi,
Choses. Alors, hein.
Mais c'est important, effectivement, parce que entre Vienne et Prague, si je puis dire, Mozart était beaucoup mieux vu à Prague, bizarrement, qu'à Vienne.
Voilà. Et donc, l'accueil pragois fut chaleureux, très chaleureux d'ailleurs, mais Mozart remanie cet opéra. Il change des airs, il ajoute des choses, etc. On ne va pas rentrer dans le détail du remaniement. Et le fait donner ensuite à Vienne, et pour le coup, à Vienne, l'accueil est mitigé à tel point que cet opéra ne sera jamais repris du vivant de Mozart.
Eh oui.
Jamais. Alors, aujourd'hui, ce que j'aime pas, bon, j'adore Don Giovanni, bien évidemment, mais ce que j'aime pas trop, c'est peut-être ça qui me fait prendre du recul par rapport à cet opéra, c'est toutes les visions scéniques, scénographiques, qui chargent à l'excès le tragique de cet opéra, qui le charge d'ambition, qu'on pourrait presque qualifier de métaphysique, et qui, pour moi, détruisent complètement l'équilibre que Mozart et Da Ponte ont su mettre entre opéra seria et opéra bouffa. Alors, cela dit, bon, vous l'avez dit, Wagner, ok, d'accord, mais beaucoup de musicologues le considèrent comme la quintessence du génie mozartien. Voilà, chacun y trouve ce qu'il veut, mais de toute façon, il n'y a pas une note à enlever, évidemment, au Don Giovanni de Mozart, c'est sûr. Après, c'est une question de perception personnelle.
Oui, et puis de sensibilité au thème et à la façon dont il est traité dans l'œuvre de Mozart, puisque comme vous l'avez dit vous-même, que ce soit au théâtre ou à l'opéra, Don Juan, le thème de Don Juan, a été pris, repris, revu, re-revu.
Ah ben c'était une vraie épidémie, une véritable épidémie. Et si on regarde en plus les personnages plus la musique, on y trouve beaucoup moins de sous-textes, parce que dans Mozart, l'essentiel est toujours dans le sous-texte, que dans Les Noces, nous venons de le voir, et dans Così, où c'est encore plus flagrant.
Alors, on va écouter un des airs et une des scènes célèbres de Don Giovanni, la sérénade des Vieni alla Finestra, avec la mandoline qui accompagne Don Giovanni à l'acte 2. Il est interprété par le grand baryton allemand Dietrich Fischer-Dieskau. La sérénade de Don Giovanni dei Vieni alla Finestra, chantée par Dietrich Fischer-Dieskau, un des airs très célèbres de cet opéra. Et d'ailleurs, Robert, avec Fischer-Dieskau, est-ce qu'on tient un des grands Don Giovanni de la seconde moitié du XXe siècle?
Ah oui, ça c'est sûr. Et j'ai eu le bonheur de l'entendre à Salzbourg il y a une quarantaine d'années, un peu plus même. Et c'était une merveille de musicalité, de timbre, de couleur, de diction.
Extraordinaire.
Non, vous avez raison, c'est un modèle.
Ah, c'est une référence, je pense, c'est un modèle. Oui, vraiment.
Alors, évidemment, c'est un modèle quand même à l'allemande.
À l'allemande, oui.
À l'allemande. Alors, je dois reconnaître que je suis un peu plus sensible à Cesare Siepi, un Ezio Pinza, qui étaient des modèles un peu plus italiens. Mais bon, au point de vue strictement musical, c'est inattaquable.
Juste, comme vous êtes un peu la mémoire de ce qui s'est passé au Théâtre du Capitole, ça a été souvent donné au Théâtre du Capitole, disons, dans la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui. Gabriel Baquet l'a beaucoup chanté.
Vous avez des souvenirs avec des grands chanteurs.
Ah, oui, Gabriel Baquet, puis là, à l'époque de Nicolas Jouel, de Frédéric Chambert, puisque depuis ça n'a pas été redonné, à ma connaissance, depuis 3 ans. Oui, oui, on a eu des Italiens en particulier, pour chanter ça, non, non, magnifique. Hein. Ben, on a eu... Je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble qu'on a eu Ludovic Tézier.
Je pense que oui, oui. Bon, on verra sans doute dans Giovanni dans les années qui viennent, je suppose.
Oui, parce que c'est un incontournable du répertoire.
Voilà, ça revient régulièrement. Voilà.
Le Metropolitan Opera.
On
ne
peut pas rester 20 ans sans avoir un Don Giovanni.
Non, c'est impossible. Le Metropolitan Opera, tous les ans, donne 20 représentations minimum.
Ouais, oui. À l'acte 1, il y a une jolie scène avec la procession des villageois qui prépare le mariage de Mazzetto et Zerlina, ce qui donne lieu à un duo entre les amoureux suivi d'un chœur, Giovinette che fate all'amore, que je vous propose d'écouter maintenant.
Ha, che piacer che sarà.
Che piacer che sarà.
Vieni, vieni, carino, godiamo, e cantiamo e balliamo e saltiamo. Vieni, vieni, carino, godiamo, che piacer che sarà. Che piacer che sarà.
Che piacer che sarà.
Giovinette che fate l'amore, duo de Mazzetto et Zerlina suivi d'un chœur lors de l'acte 1 de Don Giovanni, une version dirigée ici par Claudio Abbado. Et nous voici arrivés au troisième et dernier volet de la trilogie da Ponte avec un autre opéra très très célèbre de Mozart, Così fan tutte, ainsi font-elles toutes. Là, on revient au genre opéra bouffa, opéra comique. La création a lieu à Vienne en janvier 1790, moins de 2 ans avant la mort de Mozart. Donc, il s'agit encore d'un souhait de l'empereur Joseph II, qui demande au compositeur de travailler une nouvelle fois avec da Ponte pour porter sur scène ce qui semble en fait être une histoire vraie, Robert.
Oui, tout à fait. C'est une histoire que, enfin, pas les commères forcément, mais à la cour de Vienne, ça se racontait. Cette histoire, bon, l'histoire de deux jeunes hommes qui ont 2 amantes et un troisième homme un peu plus âgé prend le pari que ces jeunes demoiselles, elles ne vont pas résister à d'autres hommes si jamais leurs titulaires partent. Alors évidemment, Ferrando et Guglielmo disent mais non, on parie toute notre fortune là-dessus. Le philosophe en question, qui est persuadé du contraire, ben leur dit « Ok, ben le pari est tenu, mais voilà comment nous allons procéder. On va imaginer un scénario, vous allez partir à la guerre, et puis vous reviendrez très rapidement, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de guerre, vous reviendrez très rapidement, mais déguisé en turc, ou enfin ce que vous voulez, déguisé. Je dis ce que vous voulez parce qu'aujourd'hui, on les voit déguisés en n'importe quoi, et on verra. Et puis vous allez faire la cour, mais à l'inverse. »
Vous allez changer vos femmes.
Vous allez changer de partenaire. Et on va voir ce qui va se passer. Évidemment, ce qui doit arriver arrive. Alors, ça paraît être comme ça un vaudeville.
Oui, ça paraît très léger, effectivement. Vaudevillesque, comme on ne disait pas encore à l'époque.
Non, on ne le disait pas à cette époque-là. Et pourtant, la situation le paraît. En fait, non. Non, non. C'est un livret sur la fidélité, sur la jalousie. C'est un opéra extrêmement... Encore une fois, je vais employer le terme de... nostalgique, c'est un opéra qui est triste finalement parce que, en fait, ces 4 jeunes gens, ils sont là comme un peu des paradigmes de la comédie humaine. Alors, je ne dis pas que toute l'humanité se comporte comme ça, mais je pense une bonne partie de l'humanité.
Ah ben, tout de même, le titre, c'est « Ainsi font-elles toutes ».
Ainsi font-elles toutes.
Toutes, pas quelques-unes,
voilà.
Toutes.
Così fan tutte, en fait, c'est un monde à lui seul, c'est un peu l'école de la vie, et c'est quand même très douloureux. Alors, encore une fois, c'est d'un opéra bouffa, vous l'avez dit très justement, mais c'est quasiment plus dramatique, en fait, que Don Juan. Parce que Don Juan, c'est une histoire avec un commandeur qui revient de sous-terre, qui, bon voilà, bon, on y croit, si on veut croire, voilà, ce genre de personnage. Donc, on prend fatalement du recul. Là, non. Attention, nous sommes dans le dur. Nous sommes dans, comme je viens de dire, dans la comédie humaine. C'est nous. Mozart nous met en face de nous.
Oui, vous avez raison. Et je crois, je vais choquer en disant ça, mais je crois que c'est une œuvre sur l'inauthenticité des relations humaines. C'est surtout ça, je pense, qui est au cœur de cette œuvre. Alors là, en l'occurrence, des relations amoureuses, mais on peut, je pense, vraiment l'élargir à tous les types de relations qui unissent les êtres.
La fragilité des sentiments, à mon avis.
L'inconstance.
L'inconstance, voilà. Alors évidemment, Mozart nous dit ça avec la pudeur qui était l'une de ses grandes vertus. Hein. Mais pour moi, le vrai chef-d'œuvre de Mozart, il est là.
Ouais.
Voilà. C'est celui qui est le plus près de chacun de nous.
Le plus universel.
Le plus universel, voilà, vous avez raison. Oui. C'est exactement le terme qu'il faut employer. Alors là, il n'est pas question d'initiation, comme on verra plus tard dans le Futur Enchanté. Bon,
ça sera autre chose.
Pas question de tout ça. Il est question de nous. Ouais. Simplement.
Alors, il faut vous rappeler que, pour une fois, à la première représentation, l'opéra fut très applaudi, mais malheureusement, Joseph II va décéder peu de temps après, le 20 février 1790, ce qui va entraîner la fermeture des théâtres pour cause de deuil, comme on dirait aujourd'hui, et à la réouverture des salles, Così fan tutte sera presque totalement oublié.
Alors,
et Mozart va mourir assez rapidement.
Hein. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, succède à Joseph II, Léopold II, qui lui a un autre compositeur, on va dire, dans la poche, c'est Cimarosa. Donc ça déjà, c'est une...
Ah bah, il valait mieux effectivement avoir la préférence, être le favori du maître, si on peut dire.
Voilà, du régnant. Ouais.
Aussi être alors, poussé en avant.
Il y a ça aussi qui a joué. Ce deuil interminable que vous venez de souligner, c'est vrai qu'il sera fatal à l'ouvrage. Et ensuite, regardez en quelle année on est. On est à un jet de pierre du 19e siècle.
Oui.
Or, le 19e siècle va trouver que finalement, le sujet est par trop immoral. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question de roi, de reine, de dieu, de déesse, d'être surnaturel. Non, non, il est question de nous. Et ça, les gens ne veulent pas l'entendre.
Oui, je pense qu'il y a aussi effectivement eu cet aspect-là qui a beaucoup compté.
Et donc, en fait, il faudra attendre quasiment la seconde partie du XXe siècle pour que cet opéra reprenne sa place, celle qui est
une des premières.
Un chef-d'œuvre. Et pour moi, la première de Mozart, encore une fois, du duo Sextuor. La partition, et ça c'est génial aussi, elle combine tous les personnages sont combinés également, musicalement et vocalement. Voilà, parce que dans une première partie, on a le ténor avec la mezzo, et puis le baryton avec la soprano, puis ensuite c'est l'inverse, enfin, etc. C'est totalement génial. Alors, effectivement, et c'est peut-être pour ça, comme je disais en préambule, je suis arrivé un peu tard à Mozart. Parce que Mozart, dans ses chefs-d'œuvre, demande un peu plus que de l'écoute. Il demande quand même un peu d'attention, un peu...
Oui, puis de
recherche pour vraiment en profiter au maximum. Alors, c'est vrai, on peut en profiter comme ça. Mais si on se penche un peu sur les sujets, alors là, on trouve vraiment tout le génie.
Alors, pour illustrer tout ce que vous venez de dire, il y a un célèbre trio dans Così fan tutte entre Fiordiligi, Dorabella et Don Alfonso à la fin de l'acte 1, Soave sia il vento, que le vent soit doux. On l'écoute tout de suite dans une version interprétée par René Fleming, Anne-Sophie van Otter et Michele Pertussi.
Thank you.
Soave sia il vento, que le vent soit doux, trio de la fin de l'acte 1 de Così fan tutte, chanté par René Fleming, Anne-Sophie van Otter et Michele Pertussi. Une vraie merveille, cet air, il y en a beaucoup d'autres dans Così. On a une version très récemment Capitole, Robert, au début de l'exercice 20-21, ce qui d'ailleurs reste le seul opéra qu'on ait pu voir en public cette saison, malheureusement, et on peut craindre que ce sera peut-être le seul. On va passer tout de suite, après donc la trilogie d'Aponte, à ce qui va être le dernier, l'ultime opéra de Mozart. On va boucler la boucle. Cet ultime opéra a été créé le 30 septembre 1791 dans un petit théâtre des faubourgs de Vienne, quelques semaines avant la mort du compositeur. On va toutefois préciser qu'il y aura eu auparavant la Clémence de Titus, qu'on a vu au Capitole il y a 2-3 ans. Et donc, avec la flûte, Mozart revient au Singspiel, en langue allemande. Le livret est d'un certain Emmanuel Schikaneder, directeur du Theater of der Wieden, où fut créée l'œuvre. Et il n'est pas anodin que la flûte enchantée ait été créée dans un théâtre, parce qu'il y a beaucoup de changements de décor et d'effets spéciaux dans cet opéra où la magie tient un grand rôle.
Ah oui, c'est un opéra magique. D'ailleurs, c'est un opéra dans lequel ça paraît paradoxal parce que c'est l'opéra des symboles. Mais c'est un opéra dans lequel on peut amener les enfants.
C'est la flûte enchantée.
C'est la flûte enchantée, voilà. Alors donc, c'est au cours de l'année 1791, effectivement, Mozart va composer deux œuvres immenses dans deux styles bien différents, dont la Clémence de Titus, qui est l'opéra seria dans ce qu'il a de plus strict, c'est-à-dire avec les reprises d'Acapo, Ornée, avec le rôle principal donc qui est tenu par un souverain qui doit faire preuve de clémence, qui doit être éclairé, etc. Bon, ça c'est la règle un peu de l'opéra seria. Bien, mais avant de recevoir cette commande de la Clémence de Titus, il avait attaqué la flûte enchantée. Donc, il reçoit la commande de la Clémence un peu pressée, c'était pour une histoire de couronnement. Donc, clac, 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 vite, il écrit ça. Ça paraît incroyable de dire clac, 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 vite, il écrit ça, parce que c'est un chef-d'œuvre de l'opéra.
Mais qu'il a écrit effectivement très rapidement.
Mais il écrit très
vite. C'est la réalité.
Il dit, pardon, excusez-moi, je m'absente deux secondes, il écrit et il revient à la flûte enchantée. Voilà, c'est même pas réalisable
pour un cerveau normal. Les compositeurs, que ce soit rapide ou pas d'ailleurs, on a l'impression qu'ils sont vraiment connectés directement sur le divin. Là.
Voilà, absolument. Et il finit cette flûte enchantée qui est créée à Vienne le 30 septembre 1791. Mozart a 35 ans, bon, il ne le sait pas encore, mais il lui reste que 2 mois à vivre. Physiquement, il est épuisé, financièrement, il est ruiné, il est à bout. Et donc, il meurt le 5 décembre 1790 et il ne pourra pas assister au repas. Présentation de la flûte. C'est dommage parce que c'est ce qu'on appelle un grand opéra. La flûte en 2 actes sur un livret, vous l'avez dit, de son ami Schikaneder qui n'était pas rien. Hein. Je pense que si on peut faire un film sur Lorenzo da Ponte, Schikaneder, il a droit aussi au sien parce qu'il était auteur, écrivain, donc il était chanteur, il était dramaturge, il était metteur en scène, il était directeur de théâtre et comme par hasard, directeur du théâtre où sera créée la flûte. Et donc, il faut dire aussi que Schikaneder est maçon et donc ils se connaissent très bien sûr, avec Mozart. Et en fait, pour son dernier opéra, Mozart, même s'il ne sait pas encore est-ce qu'il a la prémonition de sa fin, Mozart décide de faire une ode littéralement à la franc-maçonnerie en mettant en exergue la fraternité universelle, donc la prédominance de la vertu sur le rang social, les rites initiatiques, la victoire de la connaissance sur l'ignorance, le triomphe de la paix, bien sûr, sur l'esprit de haine et de vengeance. C'est un beau programme quand même, hein. On ne peut rien dire d'autre. Musicalement également, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais il y a des rimes ternaires également qui correspondent parfaitement.
Le ternaire reviennent très souvent. On a compris l'allusion.
Voilà. Alors, même si on ne sait pas tout ça, je vous rassure, on peut parfaitement profiter de la flûte enchantée. Mais c'est surtout ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que c'est un peu la synthèse que Mozart accomplit de toutes les, ce qu'on pourrait appeler les facettes multiples de son génie. Beethoven admirer cet ouvrage. Et quand on sait que ce que disait Beethoven, et quand même quand Beethoven parlait de musique, la moindre des choses, c'est d'écouter ce qu'il disait. Hein. Et Beethoven disait que cet opéra ouvrait un monde nouveau. Et effectivement, ce monde nouveau, c'était le sien, hein, celui de Beethoven et de bien d'autres, bien sûr. C'était celui de l'opéra, plus particulièrement allemand, du 19e siècle. Nous l'avons dit en préambule, les premiers chefs-d'œuvre de ce nouvel opéra allemand, qu'a initié finalement à un moment l'enlèvement au sérail, mais que vraiment installe la flûte enchantée. Mais ses premiers chefs-d'œuvre, ce sont Fidelio de Beethoven, bien sûr, et le Freischütz de Weber.
Alors, parmi les airs fameux de la flûte enchantée, le plus célèbre de tous est bien sûr celui de la Reine de la Nuit, dont voici une version interprétée par Maria Callas. L'air de la Reine de la Nuit dans la flûte enchantée, interprétée ici par Maria Callas. Alors, vous vouliez ajouter
deux choses, très rapidement. Bon, Mozart n'a jamais été le répertoire de prédilection de Callas, mais c'est intéressant de l'entendre. Pourquoi ? Parce qu'on s'imagine toujours que la Reine de la Nuit, ce ne sont que des contrefas. Non, pas du tout. C'est un rôle qui demande un ambitus très long. Et très souvent, les chanteuses sont engagées parce qu'elles ont des contremis, des contrefas, comme des montagnes. Mais le tout est de chanter la Reine de la Nuit, de chanter toutes les notes écrites par Mozart, et en particulier les notes également dans le médium et le grave. Or, Callas le fait parfaitement.
Sur cet enregistrement-là, oui. Elle le fait parfaitement, et on le rappelle, ça n'a pas été un de ses grands rôles du tout.
Loin, ça vaut. Mais c'est intéressant de l'entendre.
Absolument. Et bien voilà, c'est donc avec Maria Callas que nous terminons cette émission consacrée aux opéras de Mozart, ou plutôt aux grands opéras de Mozart, ceux qu'on continue de jouer un peu partout dans le monde. Là encore, que de chefs-d'œuvre et de merveilles nous aura légué le divin Wolfgang dans ce domaine, assurément un genre où il aura pu exprimer toute l'étendue de son génie, et Dieu sait qu'il était immense ce génie. Un grand merci à Robert Pénavert d'avoir accepté de participer à ce numéro, de l'avoir préparé et d'y avoir apporté toutes ses lumières, sa passion pour l'opéra et pour les opéras de Mozart en particulier. Ça a été un plaisir, Robert, encore une fois, d'animer cette émission avec vous. La semaine prochaine, nous devrions poursuivre ce cycle Mozart avec un quatrième volet dont le sujet n'est pas encore défini. Je ne sais pas si nous allons aborder la musique sacrée, les symphonies ou la musique de chambre, mais une chose est sûre, il y a là aussi beaucoup à dire dans ces autres parties de l'œuvre mozartienne, quelle qu'elle soit. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h, ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité, bon week-end et excellente semaine à tous.